Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre tous les soirs des artistes pendant une heure. Ce soir, une heure de discussion avec Callisto McNulty.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper tes papiers.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain de Bec de Lièvre avec Callisto McNulty.
C'est avec la vidéo que nous raconterons notre histoire. L'histoire peut commencer comme ça, comme une apparition, une fée en robe mauve crève le plafond bariolé avec ses talons. La fée, c'est Delphine Seyrig, le film, c'est Peau d'âne, réalisé par Jacques Demy en 1970. Dans les années 70, la comédienne qui a tourné avec Buñuel, Duras et Truffaut s'associe à la cinéaste Carole Roussopoulos pour créer ensemble une véritable fabrique d'images féministes. Une entreprise pirate, lancée entre autres dans l'orbite des luttes pour le droit à l'avortement, des mouvements de libération des femmes et du phare. Votre film, Callisto McNulty, raconte tout en archives et en vidéo cette amitié et ce combat, celui de Carole Roussopoulos, votre grand-mère, et de Delphine Seyrig. Il nous donne des images pour parvenir à restituer une époque qu'on a parfois du mal à se représenter, comme une résistance à l'oubli. Bonsoir, Callisto McNulty.
Bonsoir, merci pour cette invitation.
Delphine et Carole, Insoumuse, c'est le titre de votre documentaire, et il est disponible sur Arte jusqu'au 15 février 2020. Bienvenue.
Merci. Petite rectification par contre, parce qu'en fait, il a été déprogrammé, mais il sera programmé prochainement sur Arte.
Sur Arte.
Voilà.
Et visible par tous.
Voilà, visible par tous et tous, ouais.
Il y en a une qui, par son humour, etc., sortait du lot, et c'est Monique, effectivement. Mais il y a Jacqueline, il y a Christiane, il y a plusieurs bandes. Non, mais là aussi, c'est extraordinaire, parce que... Qui nous a amené, comment on a eu l'idée? Ben, tout simplement, probablement, parce qu'on a vu qu'il y avait des femmes qui étaient en train de prendre leur lutte en main, tout simplement. Le reste des syndicats et tout n'était pas très content de nous voir sur place et de donner pourquoi on interrogeait les femmes et pas eux, etc. Donc moi, j'ai fait un accord avec ces filles en leur disant, écoutez, est-ce que vous avez envie d'apprendre la vidéo? Moi, je peux vous laisser du matériel sur place, etc. Et puis, surtout, vous pouvez remonter, venir nous voir, parce qu'à l'époque, on pouvait pas déplacer les bancs de montage, c'était tellement lourd et compliqué. Ensuite, ils arrivaient à Paris, on faisait le montage, ils remontraient le montage à l'ensemble, ils étaient d'accord, etc. Et ensuite, ça circulait. Et donc, on a continué à travailler comme ça pendant 2 ou 3 ans. Mais en fait, on entendait très peu parler d'ouvrières qui prenaient leur lutte en main. Tout le monde trouvait qu'effectivement cette machine était miraculeuse. Et moi je disais à l'époque que monsieur et madame Sony avaient fait une machine pour donner la parole aux gens directement concernés.
Callisto McNulty, on entend ici un montage. La première partie, c'est la voix de Carole Roussopoulos dans l'émission Surpris par la nuit sur France Culture en 2006. Et juste après, c'est un extrait de votre film, Delphine et Carole Insoumuse, où on l'entend parler de cette question de la caméra. Et votre film s'ouvre là-dessus, sur l'objet caméra. Est-ce que c'est de là aussi dont vous êtes parti au départ?
Le montage est... plusieurs débuts possibles et il a fallu aussi trouver un point de départ pour raconter une histoire, l'histoire de cette amitié entre Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos. Et c'est vrai qu'elles se sont rencontrées aussi à travers la vidéo, puisque Carole Roussopoulos donnait des cours de vidéo, des cours d'apprentissage à un groupe de femmes à Paris, et qu'un jour Delphine Seyrig a frappé à la porte parce qu'elle voulait s'emparer de ce nouveau médium pour aussi être derrière la caméra et pas seulement devant. Et de ce cours est née une grande amitié et une collaboration entre ces deux femmes. Carole n'avait pas du tout reconnu Delphine Seyrig d'ailleurs quand elle est venue. Et toutes les autres stagiaires étaient complètement affolées. Qui est cette grande actrice là tout à coup avec elle? Et donc, ça me semblait important que le film commence avec ça, puisque c'était le point de rencontre. Et c'est aussi un outil, je pense que c'est aussi à travers la vidéo que Carole s'est aussi engagée dans le féminisme et dans d'autres luttes. Et comme elle le dit dans cet extrait, c'était vraiment un nouvel outil qui n'avait pas d'histoire, contrairement au cinéma ou à la télévision, qui était relativement peu cher. Et donc beaucoup de femmes se sont senties libres en fait aussi de découvrir, d'expérimenter, d'apprendre ensemble en faisant des erreurs et surtout de s'exprimer à travers cet outil où je pense, contrairement à la pellicule qui pouvait coûter cher ou à la haute technique de montage de la télévision qui avait tendance un peu à hacher la parole, là l'idée c'était vraiment de donner la parole à ces femmes et à ces hommes qui étaient habituellement réduits au silence et qui n'avaient pas souvent l'occasion de s'exprimer et que voilà, ils racontent ces histoires à travers leur propre regard, leur expérience, et pas le regard d'un journaliste ou de syndicats, comme elle le dit, qui avait plutôt tendance à parler pour les ouvrières et les ouvriers, mais pas tellement à donner la parole aux principales concernées.
C'est l'idée immédiatement d'un outil politique qui vous intéressait, la caméra?
Ouais, un outil politique et aussi créatif, parce que je pense que c'est ce qu'on voit aussi dans leur film, même si je pense que la démarche, elle était vraiment militante, et ça, dans les années 70, c'est une évidence, on le voit dans tous les films, mais il y avait aussi une grande créativité. Quand on pense à des films comme Mazo et Miso vont en bateau, co-réalisé par Delphine Seyrig, Carole Rossopoulos, Johanna Vider et Nadia Ringard. Il y avait une utilisation du montage avec des inserts, quelque chose comme ça, très créatif, fait avec peu de moyens et qui est très virulent aussi, et beaucoup d'humour. Donc je pense que... Mais oui, c'était la dimension politique, bien sûr, de la vidéo que j'avais envie de mettre en image, en fait.
Votre film, il est constitué d'archives, uniquement d'archives. Comment vous avez opéré un tri parmi ce stock qu'on imagine, mais enfin gigantesque, fait une espèce de profusion qui apparaît à la vision?
Il y avait énormément d'archives possibles entre les films qu'elles ont réalisés l'une et l'autre, puisque donc Delphine, elle a réalisé plusieurs films comme Mazo et Miso vont en bateau, Scum Manifesto, mais d'autres bandes vidéo aussi. Et Carole, elle a réalisé plus de 150 documentaires tout au long de sa vie. Donc elle est décédée en 2009. Et j'ai visionné beaucoup de leurs films. C'était aussi une façon de me replonger dans cette histoire d'une façon aussi moins affective, puisque comme vous l'avez précisé, Carole était ma grand-mère. Et donc j'avais connaissance de ses films, mais voilà, là ça m'a vraiment permis d'approfondir son regard aussi de réalisatrice. Et j'avais envie en fait de respecter aussi un peu la démarche de Carole, qui était que quand elle faisait un film, elle donnait toujours la parole aux gens directement concernés, sans passer par l'intermédiaire d'autres. Et je trouvais que c'était peut-être plus fort aussi qu'elle se raconte elle-même, Delphine et Carole, à travers une confrontation d'images d'archives, donc des extraits de leurs films, qu'elles ont réalisé, parce que je pense qu'on se raconte toujours mieux à travers ce qu'on fait, en fait, des interviews de Delphine Seyrig, de télévision, mais aussi de Carole, et des extraits de films de Delphine dans lesquels elle joue en tant que comédienne. Et je trouvais, après, il s'agissait de tisser à partir de toute cette matière très riche. Et j'ai dû faire des choix aussi, parce que je donne un peu cette image, c'est une image, mais vous voyez, quand il y a deux cercles de couleurs et qu'on les superpose, pas totalement, mais un petit peu, donc il y a Delphine et Carole qui se superposent, et au milieu, il y a une zone de couleurs qui est l'assemblage des deux couleurs. Voilà, donc le film, c'était comment raconter ça, cette chose qui les lie à travers la vidéo, à travers le féminisme, à travers leur vie de femme. Et donc finalement, le choix des archives, il s'est aussi fait en fonction de ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu raconter, mais voilà, c'est ma vision, c'est une histoire parmi plein d'autres qui auraient pu être racontées aussi. Et puis j'ai décidé de me concentrer sur les années 70, parce que ça correspond vraiment à la période durant laquelle elles se sont rencontrées, donc lors de ce stage en 74 à Paris. Et ensuite, elles ont fait ensemble des films, des actions. Elles ont créé le Centre du Visuel Simone de Beauvoir, qui était le premier centre d'archivage de films réalisés par des femmes ou sur des femmes. Et ça, ça a été fondé en 82. Donc voilà, le film, la trajectoire du film, c'est un peu de début des années 70 au début des années 80. Donc il a fallu quand même se limiter à ça, sinon ça devenait beaucoup trop exhaustif et j'avais pas envie de ça. Je voulais vraiment me concentrer sur cette période de féminisme, comme on dit, qui est assez enchantée aussi, où tout semblait possible. Il y avait vraiment une liberté, une radicalité, j'ai l'impression. Bon, moi j'ai 29 ans, donc peut-être j'idéalise un peu les années 70, mais quand même je crois qu'il y avait une certaine liberté qui se sent, et avec beaucoup de résonance aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc je trouvais ça intéressant.
Une des dialectiques que trace votre film, ce serait cette opposition entre le cinéma en tant que cinéma institutionnel, et ça peut être notamment des films dans lesquels a joué Delphine Seyrig, et l'autre, c'est cette espèce de bouillonnement vidéo avec des images de différentes qualités qui sont parfois en couleur, parfois en noir et blanc. Est-ce que cette distinction entre la vidéo comme fait assez simple, c'est-à-dire de faire des prises de vue dans la rue, de rendre la parole comme ça, de manière assez directe, et le cinéma institutionnel était quelque chose qui, au moment du montage du film, était important ?
De le faire sentir. Je pense que c'était pas quelque chose dont j'avais conscience en montant le film, mais après coup, c'est sûr, je pense que on voit bien, même juste dans la qualité de ces images, que les extraits des films de Delphine Seyrig qui joue en tant que comédienne, par exemple, il y a un extrait de Truffaut, Baiser volé, il y a un extrait de Jacques Demy, donc Peau d'âne, quand elle tombe comme ça du plafond, que c'est des images qui sont encore aujourd'hui très belles, qui ont été restaurées, il y a quelque chose d'une richesse de l'image. Il y a aussi une vision d'elle en tant que femme, en tant qu'apparition, en tant qu'idéal féminin, qui clash un petit peu avec les images de vidéos des années 70, qui sont des images pauvres, qui n'ont pas été restaurées pour la plupart, qui sont dans un noir et blanc pas du tout contrasté, comme on a cette un peu nostalgie du noir et blanc. Elles sont plutôt grises, les images vidéo des premiers temps. Donc c'est plutôt une image assez ingrate, a priori, un peu fantomatique comme ça, et qui est révélatrice, je pense, de l'histoire de ces luttes-là et des femmes qui a un matrimoine pas forcément très valorisé, pas beaucoup montré non plus. Je trouvais que c'était important de pas restaurer ces images pour le film, de montrer aussi leur fragilité et de ce qu'elles racontent de cette histoire-là.
On peut penser aussi au mouvement d'avant-garde à un moment dans le film. Carole Roussopoulos évoque le fait que la caméra mobile qu'elle a achetée, ils ont été deux à l'acheter, il y a elle et Jean-Luc Godard. Ce qui la place aussi au même niveau que tout un cinéma d'avant-garde et d'avant-garde politique notamment. On peut penser aussi à Chris Marker et à cet enjeu de rendre la parole par la caméra. Est-ce que c'était quelque chose qu'il a suivi toute sa vie, cette idée de l'usage politique de la caméra?
Je pense qu'elle a toujours eu une démarche engagée dans ses films. Dans les années 70, c'était clairement militant. Ensuite, elle a aussi réalisé des films via le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui devenait producteur aussi des films. Donc c'était un peu plus institutionnel. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a fait des films en tant que réalisatrice indépendante, qui pouvaient parfois être des films de commande aussi, mais toujours avec une dimension aussi féministe, même si elle ne traitait pas forcément de sujets spécifiquement sur les femmes. Mais elle a abordé des questions aussi larges que l'accompagnement à la mort, la vieillesse, la maladie, l'incarcération, les centres de détention. Donc voilà, plein de sujets très politiques. Et j'ai l'impression qu'elle se positionnait pas du tout par rapport à Godard ou à Chris Marker, même si elle était liée à Chris Marker. D'ailleurs, elle apparaît dans un de ses films, L'Ambassade, avec son compagnon, son mari Paul Roussopoulos. Donc ils étaient amis, mais je pense qu'il y avait quand même une démarche assez différente, puisque Carole disait que les images appartenaient autant à elle finalement que surtout qu'aux gens qu'elle filmait. Et il n'y a pas du tout une démarche d'auteur. Et ça, c'est quelque chose qu'elle disait souvent, que c'était pas une réalisatrice de cinéma d'auteur et qu'elle avait pas du tout de prétention à ça. Même si on pourrait dire que Scum Manifesto, il y a une dimension de mise en scène, une dimension artistique vraiment assumée. Mais voilà, elle se définissait pas comme ça. Elle se définissait plutôt comme une écrivaine publique. Comme elle savait pas écrire, elle disait, voilà, pour moi, la vidéo, c'était une façon de transmettre ce que d'autres voulaient dire. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les films qu'elle a signés à quatre mains, parfois six mains, huit mains, et qui remettait aussi un peu en question cette idée d'une création unique, avec cette idée un peu du génie, souvent masculin quand même, auquel on pense quand on parle de Godard ou de Chris Marker. Voilà, peut-être c'était pas tout à fait les mêmes... la même démarche, même si cette dimension politique, elle est présente, je pense, chez tous ces réalisateurs et cinéastes. Ouais.
Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Delphine Seyrig, vous avez dit, je crois, une interview de vous par notre confrère François, que le cinéma français avait peur de vous. C'était le titre.
En général, on a peur des femmes qui parlent,
qui
disent ce qu'elles pensent. Toutes les femmes pensent,
oui.
Mais il y en a peu qui ont l'occasion de dire ce qu'elles pensent. Et quand elles ont l'occasion de dire ce qu'elles pensent, elles font très peur, parce que c'est un son de cloche qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce qu'on se dit, oh, elle manque de féminité, c'est pas une vraie femme. Et, ça. Et au fond, tout ça cache de la peur. C'est tout, je crois qu'on a très peur des femmes qui se montrent, fortes.
Calliste McNulty, on écoute un extrait de votre documentaire Delphine et Carole Insoumuses, où on entend à l'intérieur donc un extrait de Podane, la chanson de la fée, en 1970, et juste après une interview où c'est Delphine Seyrig qui est interviewée par Michel Drucker. On imagine c'est dans les années 80 ou quelque chose comme ça. On voit beaucoup donc dans votre film, donc c'est à la fois des interviews d'elle dans les médias et dans les grands médias de l'époque. Vraiment, elle est interviewée par Anne Sinclair, enfin les journalistes de l'époque. Quelle image vous en aviez de Delphine Seyrig avant de passer à la réalisation de ce film?
C'est assez particulier parce que j'en entendais beaucoup parler petite, par ma grand-mère, Carole, qui l'a mentionné de temps en temps. Donc c'est une présence assez familière. Elle est décédée l'année de ma naissance, donc je ne l'ai jamais rencontrée. Mais il y avait comme ça des photos d'elle sur le tournage d'Inda Song dans la maison de mes grands-parents où je passais toutes mes vacances. Donc ma grand-mère m'avait remis un haut à elle. Donc il y avait comme ça des objets, mais j'avais pas vu tant de films. J'avais dû voir Baiser volé, évidemment Podane, plus jeune. Donc voilà, j'avais plutôt cette image à la fois de l'actrice, assez énigmatique, avec toutes ces photos, ces traces de cette femme et de cette amie de ma grand-mère. Mais j'avais pas vu tellement d'interviews d'elle. Donc en fait, c'est quand ma grand-mère est décédée en 2009 et qu'elle a laissé une maquette d'un film qu'elle voulait réaliser sur Delphine Seyrig et qui s'intitulait Delphine par elle-même. Et donc c'était un projet de film qu'elle a initié à peu près un ou deux ans avant son décès et qui lui tenait particulièrement à cœur. Et elle voulait rendre hommage à son amie et aux engagements donc féministes de Delphine Seyrig qui sont pas tellement connus en fait étonnamment du grand public. Et c'est un film d'archives et qui était une maquette, donc un projet assez pas tout à fait abouti. Et finalement, mon film, Delphine et Carole, a eu pour point de départ cette maquette. Et donc, j'ai découvert Delphine Seyrig, sa trajectoire d'actrice et de réalisatrice à travers cette maquette. Et ensuite, avec les enfants de Carole, on a eu le désir de faire quelque chose à partir de cet objet inabouti pendant plusieurs années. Mais c'était peut-être qu'aussi le décès de Carole était trop proche, on n'a pas trouvé le bon moment, jusqu'au jour où finalement on s'est dit que plutôt que de terminer cet objet, pourquoi ne pas proposer autre chose. Et c'est à partir de là que le film est devenu un film à la fois sur la comédienne et sa relation à Carole, puisqu'à travers le portrait qu'elle faisait de Delphine Seyrig, finalement Carole se racontait elle-même un petit peu comme un portrait en creux, et on trouvait que c'était assez beau aussi ça. Et donc c'est en faisant mes recherches sur le film que j'ai vu tous les films de Delphine, que j'ai commencé à regarder sur Lina toutes les interviews, et elle en faisait quand même pas mal à l'époque. Elle était invitée donc sur ce plateau, Drucker, Anne Sinclair, et toujours très courageuse, très irrévérencieuse aussi. Quand elle n'était pas d'accord avec quelque chose, qu'elle trouvait une question un peu idiote, elle ne s'empêchait pas de le faire savoir. Et ouais, j'ai découvert une grande liberté. Et aussi, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir toutes les lettres qu'elle écrivait à son fils, Duncan Youngerman, qui m'a donné accès en fait à sa correspondance. Et j'ai aussi découvert une femme aussi que j'ai trouvée assez incroyable à travers toutes ces lettres. Ouais, ça a été une belle rencontre. C'est étrange de rencontrer les gens comme ça à travers des traces et finalement de lier une sorte de, pas d'amitié, mais j'aurais aimé être, elle aurait été une très belle amie, je pense, si elle était en vie, quoi. Et donc c'est comme ça, ouais.
Ce qu'il y a d'intéressant dans votre film, ouais, c'est que justement, on la voit à la fois dans son statut d'icône, dans plein d'images, et notamment dans les films, et on voit aussi beaucoup la manière dont des réalisateurs hommes se sont aussi appropriés son image, enfin, on l'a construit en tant qu'icône, justement. Mmh. Et il y a ça en plus, comme si c'était ajouté tout un pan de la vie qui était en plus, quoi. C'était comme ça que vous l'aviez pensé dans le montage aussi ?
Quoi donc, le fait que le côté icône par rapport...
La dimension féministe par rapport à sa dimension d'icône.
Ah ouais. Je pense que surtout que sa dimension, elle, son féminisme est vraiment née de son métier
de pratique,
d'actrice.
Ouais.
Oui, et des rôles très limités que le cinéma masculin lui offrait. Donc c'est vraiment à partir de ça. Et je pense que d'ailleurs, elle a réalisé le premier film qu'elle a fait en 75, c'est « Sois belle et tais-toi ». Et ça parle justement des relations de pouvoir dans le milieu du cinéma, des rôles limités qu'on leur offrait, une certaine vision, je pense, une image comme ça fétichisée de la femme, de l'apparition, de l'idéal féminin avec cette voix très belle dont on parle tout le temps, mais qui l'enfermait aussi dans un rôle particulier. Dont elle souffrait. Elle le dit régulièrement dans des interviews, dans des lettres, que le film de René l'année dernière à Marianne Bad, à la fois c'était une grande chance, puisque ça lui a permis aussi de percer en tant que comédienne. Et en plus, elle n'était pas non plus si jeune, je crois qu'elle avait peut-être 29 ans, 30 ans. Et en même temps, ça a été aussi un piège, parce que voilà, après, on lui proposait beaucoup ce genre de rôle-là. Et parallèlement à ça, il y a eu le début des années 70, le MLF, et tout de suite, elle a été très emportée par ce mouvement de femmes. Et donc, je pense que ces deux choses s'informaient et faisaient aussi qu'en rentrant dans le mouvement, elle ne pouvait plus accepter, comme elle le faisait peut-être avant, des rôles où elle était aussi beaucoup plus critique de certaines choses au cinéma. Donc je pense que c'est des allers-retours entre un contexte féministe et elle, son expérience en tant que femme et comédienne qui se sont rencontrées et aussi à travers la vidéo.
On a aussi l'impression que son amitié avec Carole Roussopoulos aussi est passée parce qu'elle ne la considérait pas du tout comme une star. Et c'est aussi un rapport qui est assez présent dans votre film, à savoir la dimension, qu'est-ce que c'est une star, qu'est-ce que c'est un anonyme, et où au final toutes les paroles sont à peu près égales. Enfin, les gens prennent la parole de la même manière.
Oui, et elle le dit d'ailleurs, Carole, j'aime bien quand elle... Que toutes ces femmes à qui... Bon, j'aime pas trop dire donner la parole, parce qu'en fait, ces femmes, elles ont une parole, juste la vidéo a été un moyen de la transmettre. Mais que ces femmes deviennent des pionnières des causes qu'elles défendent, elles deviennent des héroïnes, en fait. Et je trouve que c'est assez flagrant dans l'extrait de LIP, donc des manifestations, des grèves LIP, donc de l'usine de fabrication de montres dans les années 70. Une grève qui a duré comme ça plusieurs années. Et elle filme Monique Piton, qui était une des ouvrières très engagées, très politisées et très très drôle, et qui a un côté très comédienne aussi, et qu'elle a filmé à de nombreuses reprises, et c'est vrai que voilà, elle devient elle aussi une héroïne au même titre que en fait la question du nom n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la parole et ce qui est dit.
Valerie Solanas was a very complicated figure.
Brian Faz, biographe de Valerie Solanas.
She's one of those people that has this kind
Valerie Solanas est une figure très complexe. Elle a une complexité qui n'a jamais cessé de fasciner les gens à travers le temps.
She is clearly a mad woman, but also in some ways had a very genius.
Il est certain qu'elle a été très affectée par sa folie, mais elle avait aussi une façon géniale de voir à travers le temps et d'imaginer le futur. C'est une figure de la contradiction, un symbole de la rage féminine. C'est le genre de personne qu'on a jeté dans les poubelles de l'histoire, alors même qu'elle est très importante dans l'histoire du féminisme et dans notre construction en tant que femme.
L'édition de ce texte est épuisée aussi bien en anglais que dans sa traduction française. C'est pourquoi nous avons éprouvé le besoin d'en reproduire un extrait. Paris, août 76, Delphine et Carole.
Scum Manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses, qu'a renversé le gouvernement, virgule, éliminé le système monétaire, virgule, institué l'automation totale, et détruire le sexe mâle, point.
Calisto McNulty, on entend un extrait, le film Scum Manifesto, donc réalisé par Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, où c'est Carole Roussopoulos qui tape à la machine à écrire qu'on entend, et Delphine Seyrig qui lit un extrait de ce texte de Valérie Solanas, et juste avant on entend une archive de une histoire particulière de Anna Baron, où une historienne parle de la place de Valérie Solanas, et elle parle justement de l'idée que elle va finir dans les poubelles de l'histoire. Il y a cette dimension-là aussi dans votre film, c'est de rappeler une mémoire, quoi. C'est-à-dire de pas oublier tous les combats qui ont eu lieu, quels étaient les acteurs, et de montrer ça.
Et aussi de porter certaines voix qui sont marginales, peu ou mal entendues, ou en tout cas mal écoutées. Et je pense que Valérie Solanas, ça fait partie de ces voix-là. à qui on prête, enfin je sais pas, je pense une forme d'excès, de radicalité qu'on pourrait donc ne pas prendre au sérieux, alors que je pense que ce qu'elle dit dans ce texte, qui est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, mais est hyper construit et une vraie critique du patriarcat, mais aussi bien auprès des hommes que des femmes, puisqu'on sait que ça façonne les hommes et les femmes, le patriarcat, et que voilà, donc je trouve qu'elle déconstruit ça de façon tellement puissante, Valérie Solanas. Et donc voilà. Et en fait, le texte à l'époque, en 75, quand elles ont fait cette mise en scène filmée, était plus édité en français. Et donc, elles avaient décidé d'en traduire des extraits, parce que Delphine Seyrig était bilingue. Donc, elle avait traduit elle-même librement des passages du manifeste. Et ils avaient trouvé ce dispositif où Carole était en face d'elle, retranscrivait à la machine à écrire de façon un peu aléatoire et un peu voilà, parodique le texte. Et en contrepoint, il y avait des images du JT sur un moniteur télé. Et de temps en temps, elles augmentaient le son et on voyait les nouvelles du jour. Et ça permettait aussi de relativiser la violence du discours de Solanas, qui reste assez poétique finalement, puisque c'est pas aujourd'hui que ce sera mis en pratique, je pense.
L'abandon du système monétaire,
voilà, tout ça. Puis même la destruction de la race masculine, je pense que c'est pas pour tout de suite, quoi. Mais et en fait, en contrepoint, on voit des images d'impérialisme à la fois terrestre mais extraterrestre, avec des hommes qui vont sur la lune, des guerres, des violences policières. Et je pense que voilà, c'est aussi une façon pour elle non seulement de conserver une trace du manifeste, mais aussi de porter, de légitimer la voix de Solanas, qui était je pense souvent taxée d'hystérique, folle, rabat-joie, vraiment la féministe radicale à qui personne ne veut ressembler. Et là, justement, la télé, qui était normalement dénoncée dans tous les films de Carole, surtout dans les années 70, devenait presque un support de légitimation de la voix de Solanas. Et ça, je pense que c'est assez fort aussi dans leur mise en scène, qui est à la fois très simple et très efficace et drôle aussi, puisque on voit Carole qui est pas une secrétaire très docile, quoi. Elle tape 15 fois sur la même touche pour taper la date 67 d'écriture du manifeste. Elle fait des pauses cigarettes. Je trouve que ça rend bien compte aussi de leur façon à la fois très radicale, parce qu'il était important de porter cette voix de Solanas, et en même temps d'une mise en scène qui, à mon avis, témoigne là aussi d'une créativité liée à la rencontre entre Delphine et Carole, et qu'on retrouve dans les films qu'elles ont réalisés ensemble, où elles se complétaient très bien, je pense. Et peut-être que le côté aussi de performance, je pense qu'il venait aussi certainement de Delphine en tant qu'actrice. Elle avait dû proposer ça. Je suis pas certaine que Carole, elle apparaissait très rarement à l'image de ses films, donc elle avait plutôt tendance à être derrière la caméra. Je pense que c'est vraiment né de cette rencontre entre ces deux femmes qui se complétaient vraiment bien.
Ce qu'on voit beaucoup, et c'est dans votre film, c'est la dimension fabrique, quoi. C'est-à-dire, un moment, c'est Carole Roussopoulos qui dit ça, je crois. On avait une idée, on le faisait, quoi.
Et ça, c'est ouais. Et de spontanéité, de pas se poser 30 000 questions. Elle dit, on réfléchissait pas des heures à savoir s'il fallait le faire ou pas le faire, si c'était bien politiquement ou correct. Bon, je pense qu'elles avaient quand même une intelligence aussi qui faisait qu'elles avaient pas besoin de s'arrêter, de tout théoriser avant de faire. Et moi, je trouve que c'est très libérateur, et ça m'inspire beaucoup en tant que femme et en tant que réalisatrice, parce que je pense qu'on on a plus tendance aujourd'hui à écrire des dossiers, à beaucoup se rassurer, à beaucoup vouloir justement à perdre aussi un peu cette spontanéité-là, mais qui est liée aussi au fait qu'elle réalisait ses films de façon un peu pirate, à la sauvage, c'était pas institutionnalisé, donc on sent aussi cette liberté et cette radicalité qu'il y a à ce contexte de production aussi.
Again.
belle était toi.
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Callisto McNulty.
Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Bon, alors ils m'ont travaillé là le visage, et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait. Et puis le dernier, oui, ils voulaient que je fasse casser la mâchoire, briser la mâchoire par une dentiste pour
creuser les joues.
Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commerciale parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos.
Le monde a changé et c'est pour ça en fait aussi que je parle, c'est parce qu'en fait je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant dans le cas des affaires MeToo et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Et de proposer ces nouveaux récits, voilà. Je suis un peu brouillon, hein, je suis désolée, forcément, je suis
tout,
un petit peu émue,
vous
mais.
Pas du tout brouillon.
Et voilà, ça me semblait important. Et puis, bah, c'est ce que j'ai pu dire aussi à Marine, c'est que, bah, en fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que voilà, comme vous l'avez dit, je travaille suffisamment, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, j'ai des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez, c'est pour leur parler à elles et à eux, en fait, pour dire que ils sont pas tout seuls, quoi.
Callisto McNulty, on écoute un extrait de Adèle Haenel, c'était à l'automne 2019 sur Mediapart, quand elle revenait sur son histoire de harcèlement avec un réalisateur. Et juste avant, c'était un extrait de Sois belle et tais-toi, donc le film de Delphine Seyrig qu'elle a réalisé dans les années 70, où elle est allée interviewer à Hollywood plusieurs actrices, et là c'était la voix de Jane Fonda qui racontait donc toutes les manipulations qu'elle a pu subir en tant qu'actrice. Ça nous a semblé évident de faire ce pont-là entre ces deux archives. Peut-être une question sur cette expression de Adèle Haenel qui dit le monde a changé. Et moi, un truc qui m'a vraiment frappé en voyant votre film, c'est que bah, pas tant que ça. Après, en tout cas, oui. Pour la situation des actrices, non, si on se concentre là-dessus.
Puis je pense que le cinéma, c'est un peu une loupe grossissante des rapports de genre, de classe et de race. Enfin, ils se manifestent de façon assez déployé au cinéma. Et ça n'a pas changé. Donc, voilà, moi je pense qu'en fait aussi, je voulais faire un film d'archives et montrer ces images des années 70 parce qu'il y a des résonances qui sont évidentes et que même si évidemment il y a eu des glissements, il y a eu des changements et que il y a quand même le féminisme reste un outil de vigilance, quoi, et qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées. Et c'est vrai que c'est fort de voir toutes ces femmes que Delphine Seyrig elle interviewe dans Sois belle et tais-toi. Donc c'était à la fois à Hollywood et à Paris. Et on voit donc Jane Fonda parler donc d'un idéal féminin, de normes de féminité, de beauté, d'une exigence voilà qui est complètement aliénante. On entend aussi une femme noire qui raconte que les seuls rôles qu'on lui propose, c'est des rôles de bonne, parce qu'elle ne peut pas faire de rôle d'esclave. C'est l'autre possibilité quand on est noir à l'époque, puisqu'elle a le teint qui n'est pas assez foncé. On voit aussi des actrices plus âgées qui, en fait, n'ont pas de rôle, tout simplement. Ou alors, quand elles ont des rôles, c'est vraiment pas des rôles très intéressants. Enfin, et ça, je pense que encore aujourd'hui, et elle le dit très bien, Ada Lennel, c'est déjà au niveau des rôles, c'est problématique, et c'est lié aussi à un regard de réalisateur. Et parfois aussi de réalisatrice, mais en tout cas un regard qui n'est absolument pas féministe et qui prend pas en compte aussi l'importance d'avoir une richesse d'expérience qui reflète à la fois une expérience plurielle qui existe réellement quand on est une femme, qu'on soit jeune ou plus âgée, de différents milieux, mais qui aussi a un pouvoir de changer un peu, je pense, l'ordre des choses, quoi. Parce qu'il y a un potentiel énorme d'identification au cinéma, dans les images. Et c'est vrai qu'à force de voir toujours les mêmes rôles, et de voir qu'on n'est pas convié dans plein d'histoires, c'est difficile aussi, c'est douloureux de se sentir exclue de ça, en tant que spectatrice ou spectateur. Et en tant qu'actrice, je pense que c'est très aliénant. Et c'est vrai qu'elle dit, et je pense que c'est très juste aussi à Dalenel, qu'elle a la chance de pouvoir choisir ses rôles aujourd'hui, qu'elle est quand même pas dans une précarité que beaucoup de comédiennes ont, et qu'elles doivent accepter des rôles qui sont souvent très moyens, quoi. Donc il s'agit vraiment pas d'aller stigmatiser aussi des actrices qui acceptent des rôles, mais de comprendre que tout ça c'est structurel, et c'est aussi l'importance qu'il y ait des hommes et des femmes réalisatrices et réalisateurs qui a un regard, je sais pas, un peu plus intelligent et plus riche sur le monde. Et c'est ce que on entend beaucoup, ce mot de female gaze, de regard de femme porté sur le monde. Mais moi, à mon sens, c'est un regard de femme, mais aussi tout simplement un regard féministe sur le monde, parce que voilà, il est juste, c'est nécessaire. Je pense qu'on peut pas écrire sans avoir un minimum être traversé par ces questions de rapport de privilèges, de domination, enfin qui structurent nos rapports entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs que des hommes ont, hein, puisque Almodovar, moi je dirais qu'il c'est un regard féministe sur. Donc je préfère le terme feminist gaze que female gaze d'une certaine manière. Qui me semble un tout petit peu enfermant pas essentialisant, mais voilà. Et voilà, elle a été très courageuse, Ada Lennel. Moi, je trouve que c'est très beau. Et d'ailleurs, le film Portrait d'une jeune fille en feu est juste magnifique. Et il rend compte de ça aussi, d'un magnifique portrait de femme réalisé par Sidney Siama. Un modèle pour moi de film, de réalisation.
La filiation entre Delphine Seyrig et Ada Lennel, elle m'a paru assez évidente aussi dans l'utilisation de la notoriété. C'est-à-dire, je sais que j'occupe une place importante dans tel milieu et donc dans l'espace public en général, et je vais m'en servir.
Ouais, mais je pense qu'elle parle de responsabilité, mais je pense qu'à un moment, il y a plus tellement Déjà, c'est vrai que c'est une responsabilité. Et qu'à un moment, il faut aussi
en prendre conscience,
et que c'est vrai que c'est très courageux de sa part aussi de le faire, ce que je pense c'est assez inconfortable aussi, peut-être qu'elle a pas envie d'être le centre de cette attention là mais en même temps elle est nécessaire, comme elle dit, pour que d'autres puissent pour créer un espace de confiance où c'est possible de parler de ces choses là et c'est vrai que depuis quelques années on dirait qu'il y a quand même un espace qui s'ouvre, même si il y a certaines personnes se sentent entravées par cette parole. Leur liberté serait entravée, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir que l'expression et la liberté des uns ne doit pas entraver celle des autres non plus. Et ça, on tend à l'oublier aussi. Et je pense que, pour revenir à Delphine Seyrig, elle disait même qu'en fait, elle avait plus du tout le désir de faire des films autres que des films qui l'intéressent, avec des rôles où elle peut, elle aussi, se retrouver, quoi. Et étendre aussi son jeu, puisque c'est vrai que si jamais on fait tout le temps les mêmes rôles, je pense en tant qu'actrice, ça devient très limitant et pas très intéressant non plus. Et qu'il y a un paradoxe qu'elle dans une interview que je mets d'ailleurs dans le film où elle dit qu'en fait quand on est comédienne et qu'on est féministe, en fait c'est simple, on arrête de jouer parce que ça n'existe pas quasiment. Et donc elle a su s'entourer de réalisatrices comme Marguerite Duras, Liliane de Kermadec, Chantal Ackerman, bien sûr, dont Jeanne Dielman, un des plus beaux films, je pense, qu'elle ait tourné avec une réalisatrice. De bien s'entourer et de travailler en collaboration avec ces femmes, de les soutenir aussi, puisque à l'époque, Chantal Akerman, il n'y avait pas énormément de moyens sur le film, donc je crois qu'elle avait accepté de le tourner pour assez peu, mais c'était aussi une façon de soutenir ces jeunes réalisatrices. Donc c'était un soutien qui se jouait à plein d'échelles différentes. Et après, en tant que féministe, par exemple, Delphine Sirik prêtait son appartement régulièrement pour y pratiquer des avortements par des militantes du MLAC qui pouvaient donc faire ces avortements de façon sécurisée dans un endroit propre chez Delphine. Donc elle s'est engagée comme ça sur plusieurs fronts, en tant que comédienne, en tant que réalisatrice, aussi en tant que militante, même si elle détestait ce mot-là. Je crois que...
Elle le dit à un moment, ouais. Que le mot militante, elle n'aime pas trop.
Elle n'aime pas trop parce que je pense que... Bon, peut-être parce qu'elle ne se sent pas suffisamment... comme elle n'a pas sacrifié sa carrière de comédienne à l'engagement total, elle évoque ça. Mais je pense qu'il y a une autre interview qui est assez intéressante où elle dit que... Pour elle, militant, ça évoque le mot militaire, ça évoque quelque chose de sacrificiel, comme si on mettait sa vie en suspens pour défendre une cause. Et c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment, on ne peut plus éloigner de sa démarche et de celle de Carole aussi, et d'autres féministes de l'époque qui bien sûr, étaient très en colère. Mais il y avait aussi une joie, cet engagement s'inscrivait vraiment dans les plaisirs de la vie. Et pas que dans quelque chose où on s'oublie, en fait. Non, on s'oublie pas. Et justement, cet engagement nous donne une force, nous rend solidaires et nous permet de créer. Et c'est ça qui fait qu'on a aussi la force de se battre, parce que ça nous donne de la force, en fait, en retour.
Est-ce que ça donne de la force aussi de prendre ce recul, justement, historique sur l'histoire d'un mouvement et de se rendre compte que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, dans une version un peu déprimante, que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué, mais de voir aussi qu'il y a eu une histoire des luttes.
Je pense que c'est important parce que sinon, on peut assez vite tomber dans une sorte de cynisme, d'impuissance, où on se dit, bon, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça de tout temps. Finalement, les lois sont un peu le reflet d'une société. Les choses évolueront naturellement si il le faut. Sauf qu'on voit que c'est pas du tout le cas et que même, par exemple, la loi pour que l'avortement soit légalisé ou que la contraception soit diffusée de manière gratuite et générale en France, ça a été un combat énorme. Et c'est pas que Simone Veil a fait voter cette loi et bon, il faut lui être, je lui suis reconnaissante. Mais derrière Simone Veil, il y a eu des militantes du MLAC, il y a eu des féministes, il y a eu le MLF qui faisait beaucoup d'actions. Il y a eu le manifeste des 343 salopes, enfin salopes dénommées pour les autres. Il y a eu beaucoup de luttes qui amènent à ça. Et ça, je pense, c'est important de... En fait, ça donne un éclairage, je pense, nouveau, un éclairage important à nos luttes contemporaines, de comprendre d'où elles viennent. Et particulièrement, par exemple, quand on sait qu'aux États-Unis, il y a quelques mois, a été votée l'une des lois les plus restrictives contre l'avortement. Donc des choses qui nous paraissent comme ça être des acquis, en fait, sont très fragiles et que c'est important d'avoir toute cette histoire en tête pour comprendre que, pour aussi s'armer, je pense.
Est-ce que ça donne de la force aussi dans votre pratique de documentariste, dans la manière de faire des images ou de monter ou d'utiliser les archives ?
Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à monter les archives. Je trouve que c'est... on découvre aussi, c'est à la fois, c'est très, ça instruit, c'est une fierté aussi, parce que c'est vrai que toutes ces images réalisées par toutes ces femmes, moi je suis très fière de ces images et je sais que c'est aussi un peu grâce à elles que je me sens plutôt, bien sûr que je vis des formes d'inégalité, mais je me sens quand même assez armée. Et ça, je pense que d'avoir eu une grand-mère comme Carole, d'avoir été au contact de ces femmes, voilà, ça m'a donné aussi de la force. Et c'est vrai que de monter ces images, ça a été un grand moment de plaisir parce que c'est y a à la fois beaucoup de colère très juste et aussi beaucoup d'humour. Et je trouve que c'était assez beau aussi de voir qu'on peut qu'il peut y avoir une radicalité joyeuse. Et je pense que c'est ça aussi la force de leur œuvre commune, c'est d'allier cette critique sociale à une créativité et un humour. Même si c'est pas toujours simple, il y a des sujets sur lesquels on peut pas rire. Enfin, clairement, le viol, les violences, le harcèlement. Mais voilà, il y avait cette chose-là. Et c'est vrai que aussi leur spontanéité, moi, elle me donne de la force, je pense, en tant que réalisatrice. Parce que, comme je le disais avant, bah ouais, j'ai plutôt tendance à me poser trop de questions. Parfois, ça peut aussi freiner un petit peu. Et elles ont un côté très décomplexé. Et de collaboration, de sororité en fait, d'aller à la rencontre, de savoir qu'en fait, on produit jamais rien tout seul, qu'on est toujours accompagné de que ce soit des réalisateurs qui nous inspirent, des réalisatrices, nos amis, on peut même co-réaliser des projets. Et ça, c'est quelque chose qui me porte pour la suite.
Moi, je trouve que finalement, c'est un problème complètement général, c'est-à-dire qu'il faut s'arracher au modèle masculin. Voilà. Moi, je le sens comme ça. On vit dans des modèles qui sont ceux des hommes, faits par les hommes, sur tous les plans, toutes les structures, y compris notre table, les micros, les vis qu'on n'arrive jamais à dévisser, etc. Tout ça, c'est fait par des hommes. Le cinéma aussi, bien sûr. Alors, pour moi, c'est ça, c'est une réflexion constante sur comment s'arracher à ces modèles-là, sur tous les plans de la vie du cinéma. Et ça, ça passe dans le discours qu'on tient quand on fait un film, forcément.
Mais ça, c'est très difficile parce qu'il faut donner quelque chose à la place.
Mais il faut l'inventer. On l'invente. Et alors, quand Bibi Anderson parle de responsabilité, il y a celle aussi des spectatrices. Parce qu'on parle d'argent.
C'est ça que je voulais dire.
On parle d'argent. Oui, mais d'où il peut venir, l'argent? Pas des financiers qui sont des banquiers, qui sont des hommes, qui sont tout ça. Bon, et qui aiment l'argent. Mais les femmes, si elles se décident à réfléchir... Pourquoi je vais voir ce film-là? Et pourquoi? Bon, est-ce qu'elles vont? Moi, je radote là-dessus, je le dis tout le temps. Mais est-ce que les femmes vont au cinéma en choisissant leur film, ou est-ce qu'elles attendent qu'il y ait un monsieur qui leur dise viens, je t'emmène au ciné?
C'est ce qu'on appelle l'exigence, en fait.
Une oui, nouvelle forme d'exigence. Sa propre exigence, oui. Découvrir sa propre exigence. Mm-hmm. Est-ce que moi, j'aime vraiment ce film-là que je vais voir parce que j'ai l'habitude, parce qu'il est là, ou parce que quelqu'un m'emmène? Mais ça, si les femmes ont conscience de ça, mais ça va changer tout.
Callisto McNulty, on entend une archive de France Culture, cette fois c'est en 1975, et c'est la voix de Liliane de Kermadec. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette archive?
Elle m'évoque justement ce qu'on abordait juste avant sur le regard masculin qui est omniprésent dans beaucoup d'œuvres, et l'importance de créer d'autres regards, que ce soit, je pense, des regards... de femmes, des regards lesbiens, des regards homo, des regards... juste une pluralité de regards qui rendent compte aussi de la pluralité de l'expérience de chacun et de chacune. Et je trouve que c'est très juste ce qu'elle dit.
Cette idée de l'exigence aussi, surtout.
Oui, bon, ça, c'est un peu plus dur, parce que... je pense que c'est un peu compliqué, cette question de l'exigence, parce que quand on a grandi en ayant eu l'habitude de s'identifier pas forcément au personnage féminin, puisque je pense que c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais qu'à l'époque, c'est vrai que les personnages féminins étaient plutôt des personnages pas forcément centraux dans les films. Il y avait souvent beaucoup de rivalité entre les femmes à l'écran, pas tellement d'amitié. Et ça n'empêchait pas les femmes d'aimer voir les films et de s'identifier à des personnages, peut-être même plus de s'identifier au regard de... masculin, en fait, du protagoniste principal qui sera un homme et qui irait conquérir le cœur de l'actrice principale, et qu'on finit finalement par s'identifier. C'est une forme d'aliénation dont beaucoup de théoriciennes ont parlé féministes, mais que notre désir, il est aussi colonisé par ça, en fait, par une identification qui n'est pas forcément notre propre regard, mais le regard de l'autre, le regard dominant, en fait. Donc, qui est plutôt un regard d'homme, celui du réalisateur, plutôt un regard d'homme blanc, et d'homme blanc plutôt bourgeois en général. Donc je trouve qu'elle a raison quand elle dit que c'est aussi... aux spectatrices de se poser ces questions-là.
Et de se mobiliser.
Mais après, c'est aussi responsabiliser les spectatrices d'un cinéma qui est problématique. Et donc, voilà, moi, je pense que ça doit être dans les deux sens. Et qu'aussi, et aussi peut-être que ce soit aussi aux spectateurs hommes de pouvoir s'identifier à des histoires dans lesquelles ils ne sont pas forcément conviés de façon explicite. Par exemple, dans le portrait d'une jeune fille en feu, il n'y a pas de personnage masculin. Et c'est vrai qu'il y a eu des critiques qui trouvaient que c'était un film de femmes. J'ai déjà entendu ça récemment. Je prenais l'avion avec un ami qui avait vu Gloria Bell. Voilà, c'est un film donc, qui suit les déboires amoureux de Julianne Moore. Et c'est un film qui est pas... Tout n'est pas incroyable, mais bon, c'est un beau film, un beau portrait quand même de femme de 55 ans. Et qui me dit en descendant de l'avion, oui, mais moi j'aime pas trop les films comme ça où le personnage principal c'est une femme, les films de femmes. J'étais vraiment, je savais pas quoi dire quoi. Bah oui, mais en fait ça arrive quasiment toutes les spectatrices sont dans ce cas-là en fait, puisque souvent les films ne tournent pas autour, ou alors dans des comédies un peu bébêtes où c'est la femme qui est le personnage principal, mais enfin ça vole pas très haut en général. Donc, je pense que c'est à tous les spectateurs et pas que les spectatrices de s'ouvrir aussi et d'aller s'intéresser aussi dans une forme d'empathie à des histoires où ils ne sont pas forcément conviés de façon évidente. Voilà.
Merci, Calliste McNulty. Votre documentaire Delphine et Carole Insoumuse sera disponible très prochainement sur Arte. Ce soir au son, c'était Claude Niort, David Travailleur était à la réalisation, Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Lucie Riandet, Lou Quevauvillier et Valentin Rémy. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur la page de Par les temps qui courent sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Et tout de suite, c'est le journal. Oh,